paraît que l'on vit tous dans un sous-marin jaune. Bonsoir, ce jeudi 28 novembre, le nôtre est sorti de l'eau pour intégrer le hall du musée des Beaux-Arts à l'occasion de la 9e nuit des étudiants. Toute la soirée de 19h à minuit, le musée va être animé par et pour les étudiants. Et pour en parler sur les ondes de Radio Campus Angers, nous avons une table bien fournie. Bonsoir Ariane James-Sarrazin.
Bonsoir.
Vous êtes directrice des musées d'Angers, c'est-à-dire du musée des Beaux-Arts, de la galerie David d'Angers qui est juste à côté dans le jardin, du musée Jean Lursa, du musée Château de Villevêque et du musée Pincé.
Et un raton laveur.
Aussi.
Aussi.
En face de vous, Julie Guillemont, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médiatrice culturelle au musée et c'est vous et votre équipe qui avez organisé cette soirée, comme c'est le cas depuis 9 ans maintenant.
Voilà.
À côté de vous, Vincha, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes musicien, chanteur, compositeur. Vous avez sorti en avril votre premier album Sissi la famille après 2 EP.
Exact.
Et vous avez mené les ateliers Fête du bruit avec initiation au son, au sample avec des étudiants il y a 3 semaines et les créations qui en ont découlé seront diffusées ce soir au musée.
Tout à fait.
En face de vous, on retrouve Cyprien du groupe de théâtre Les Improvisiaques. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc vous intervenez ce soir par des médiations de théâtre improvisé.
Exact.
On en parlera tout à l'heure.
Entendu.
Et puis on aura aussi des étudiants qui ont participé aux ateliers, on aura des étudiants porteurs de projets. Et puis parce qu'il faut bien un peu de musique dans tout ça, nous accueillerons le groupe Rennais Gus 2 qui va jouer ce soir dans le musée pour un live. Et voilà, les présentations sont faites, on va pouvoir entamer la discussion autour de cette grande table dans le hall du musée des Beaux-Arts d'Angers en direct et en public. Ariane, James-Sarrazin, Julie Guillemont, est-ce que cette nuit des étudiants, c'est une façon d'attirer un public qui vient peu au musée?
Pas forcément, puisque pendant toute l'année, les moins de 26 ans ont un accès gratuit au musée. Et depuis la mise en œuvre de cette mesure, on voit que les jeunes sont de plus en plus nombreux à fréquenter les musées. Mais vous avez raison, la nuit des étudiants est pour nous un moment où se concentrent toutes les activités du musée au service des étudiants. Et c'est vraiment une occasion extraordinaire de visiter ou de revisiter le musée et les œuvres à travers des propositions décalées, singulières, qui sont souvent le produit de l'imagination et de la créativité des étudiants eux-mêmes.
Alors justement, ce soir, c'est quoi le programme? Il est très chargé. Là, pour décrire un petit peu aux auditeurs qui ne sont pas dans le hall, et tant pis pour eux, c'est dommage, ils vont peut-être nous rejoindre. Donc on est dans le hall et il y a plein de spots. On a en face de nous une vidéo, une projection avec de l'eau, ça tombe très bien pour le sous-marin. Et puis donc, dans le musée, dans les galeries, qu'est-ce qui se passe?
Alors, il y a différentes choses. Il va y avoir du bruit, du son déjà. On en a parlé avec les réalisations des étudiants autour du sampling. Il va y avoir aussi les concerts. Il va y avoir des installations de plastique d'étudiants en beaux-arts ou en arts plastiques. Les médiations qui vont avoir lieu, donc, ou sérieuses ou décalé, ça c'est ce qu'on verra aussi tout à l'heure. Beaucoup de propositions diverses et variées pour justement permettre une approche différente du musée et des collections.
Pour que ce soit un peu plus ludique en fait.
Oui, la proposition que l'on fait avec la thématique associée qui est celle des super-héros.
Oui, c'est le thème, c'est vraiment Heroes.
Voilà, tout à fait. On a vraiment choisi pour montrer qu'on pouvait pratiquement tous permettre au musée et que les œuvres, si elles existent, c'est parce qu'elles sont regardées par des visiteurs. Et on avait envie que les étudiants fassent le plus de choses possible avec. On peut tout faire, on peut prendre un morceau d'une œuvre, le décaler complètement dans l'espace-temps, on peut tout réinventer, c'est ce que les artistes font de toute façon, ils réinventent à partir de quelque chose. Donc c'était le point de départ pour libérer vraiment les esprits créateurs.
Alors justement, le choix du thème, il s'est fait comment? We Can Be Heroes.
Il a été proposé par l'équipe de médiateurs et puis après validé ensemble de manière collégiale.
Donc l'idée c'est quoi? Est-ce qu'il y a des costumes? Alors il y a des costumes, on l'a pas dit. Il y a un studio photo, les gens peuvent se déguiser.
Photo où les gens peuvent se costumer et on va les incruster dans le tableau de leur choix, donc des collections. Ils vont pouvoir reprendre la pose, donc un Superman Anne, bah, qui prend la pose de Louis XIV.
D'accord. Pas. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'en fait, les étudiants venaient de plus en plus depuis que le musée est gratuit pour les moins de 26 ans. D'ailleurs, ça fait combien de temps, Ariane James Sarrazin, à peu près ?
Oh, ça fait à peu près 2-3 ans.
Ouais.
C'est quoi les habitudes des étudiants dans le musée ? Est-ce qu'ils ont, par exemple, des périodes favorites ? Est-ce que le contemporain attire plus que le médiéval ? Est-ce que tout ça, c'est un vieux cliché ?
C'est difficile.
Oui, c'est vraiment difficile parce que nous n'avons pas d'enquête très très précise encore sur les habitudes de notre public. Je dirais que le public étudiant, il est comme tous les publics. Il va venir d'abord pour voir des expositions temporaires dont les sujets lui parlent, l'intéressent. Et puis, il va aussi fréquenter les musées à l'occasion de toutes les activités culturelles que l'on propose tout au long de l'année et qui vont bien au-delà de simples visites ou de simples médiations, puisque depuis très longtemps maintenant, on a l'habitude de faire cohabiter et surtout dialoguer différentes formes d'expression artistique, de la musique, des arts plastiques, du théâtre, de la poésie, du cinéma. Et donc c'est de cette pluralité-là, c'est cette pluralité-là qui attire, je pense, ce public jeune. Et cette nuit des étudiants, elle permet aussi, pour répondre à ce que vient de vous dire Julie, au souhait que les musées n'apparaissent plus comme une forteresse académique qui n'est réservée qu'à une élite, qu'à des gens d'un certain âge, sérieux, qui ont des codes pour qui c'est vraiment un lieu habituel de rassemblement, mais que le musée peut être aussi un lieu de délectation, de plaisir, de fête, de partage, de joie et tout simplement de divertissement aussi et de rencontre.
Essayez de décloisonner un petit peu.
Voilà, essayer de décloisonner, essayer d'ouvrir le musée sur la ville, sur la société, faire en sorte que le musée appartienne à tous, tout simplement.
Et notre présence sur les réseaux sociaux aussi est là pour ça. Cette année, on a voulu être présent pour les étudiants sur Facebook, sur Twitter.
Il y a un hashtag.
Voilà, il y a des hashtags qui ont circulé ces derniers jours et même ces dernières semaines. Et justement, c'est un public qui est plus difficile pour nous à cerner parce que c'est un public qui bouge. Et on a envie de se rapprocher d'eux pour connaître justement ce qui leur ferait plaisir, tout simplement, et ce qu'ils attendent du musée. Donc on fait un pas vers eux par ces réseaux sociaux. Et d'ailleurs, on va projeter tout à l'heure un écran avec le Facebook, le Pinterest, créé spécialement pour l'événement. Et on espère que le lien va rester. C'est pas uniquement ponctuel ce soir-là, mais c'est pour dire aussi et affirmer qu'on a envie d'un lien dans longue durée avec les étudiants.
Et vous sentez que ça fonctionne quand vous leur...
Ça démarre, ça démarre bien. On a des étudiants sur Facebook, on a de plus en plus de likes, de partages, on est suivis, on est visionnés. Et d'une part, ça fait très plaisir parce qu'on a mis beaucoup d'énergie ces dernières semaines sur ces réseaux. Et voilà, ça fonctionne, donc c'est un pari qui commence à être gagné.
Il y a une autre chose qui fait que vous demandez leur avis aux étudiants, c'est que ça fait 2 ans que c'est eux qui font la soirée, en fait.
Oui. Avant, on leur proposait, en fait, une soirée des étudiants où on avait des professionnels qui intervenaient. Depuis 2 ans, on veut que les étudiants... Oui. Soir. Quand la thématique a été décidée et validée, début septembre, nous avons lancé un appel à projet avec rendu des dossiers mi-octobre. Donc ils avaient très peu de temps, mais c'est dans l'effervescence que les projets sont arrivés. On a eu plusieurs projets qui sont passés par un jury. Mm-hmm. C'était important pour nous que ce soit décidé de manière collégiale avec des membres du musée, donc des médiateurs, des conservateurs, mais aussi des membres de chaque équipe, des professeurs qui ont travaillé avec nous de l'université. Lucie Plessis qui vient de la Galerie 5 de Belbeil. Oui. Donc on a vraiment des intervenants dans l'Artothèque aussi. Donc voilà, pour vous montrer que c'est vraiment varié, pour que tous s'expriment et que tous les projets aient une chance d'être acceptés et qu'on en discute ensemble.
Alors justement,
c'est un moment fort.
Toutes les disciplines aussi, ça faut le préciser.
Voilà, alors ça c'est quelque chose chose qu'on n'a pas réussi encore cette année. C'est un pari de longue haleine, je pense. Cette nuit des étudiants, je le dis haut et fort, est ouverte à tous les étudiants et pas uniquement les étudiants Beaux-Arts et Histoire de l'Art. Nous attendons des étudiants sciences, médecine, droit, mathématiques appliquées. Tous ceux qui veulent bien venir nous voir sont les bienvenus et tous ont leur place dans le musée.
En tout cas, ce soir, c'est jusqu'à minuit.
Tout à fait.
Donc, il y aura un DJ, il y a un bar qui est installé dans le hall.
Il y a un bar. On a essayé d'accompagner toutes les médiations et les propositions qui sont faites d'un climat propice au partage et à une ambiance sympathique.
Et on nous voit de loin.
On nous voit de loin
puisqu'on a un magnifique éclairage extérieur qui a été fait par CreatBox et qu'on remercie bien parce qu'ils ont été très réactifs.
Alors justement, pour animer cette soirée, on a Cyprien des Improvisiaques. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, les Improvisiaques, qu'est-ce que c'est en quelques mots ?
Alors, les Improvisiaques, c'est une troupe de théâtre d'improvisation basée à la Cato, l'Université catholique de l'Ouest, qui a été créée il y a à peu près 3 ans. Nous étions une petite dizaine et maintenant nous nous retrouvons à plus de 50 joueurs cette année, donc un bon succès ces derniers temps. Peut-être grâce au musée, notre intervention l'année dernière au musée aussi, lors de la nuit des étudiants.
Qui était très suivi.
Qui nous a ramené beaucoup de gens. Exactement.
On a prévu de gros renforts cette année d'ailleurs, une équipe de malabar pour
un cordon de sécurité autour des improvisiaques.
C'est ça.
Alors c'est quoi le principe de la médiation pour les improvisiaques ?
Alors
vous
en fait,
proposez quoi ?
On va proposer une petite surprise aux spectateurs. Ils vont s'attendre à une médiation. On va leur annoncer que en fait les médiatrices qui devaient faire la médiation ne sont pas là. Et donc ce sont des agents d'accueil. Des agents d'accueil. Donc pour nous les gardiens du musée, ceux qui surveillent les visiteurs, ceux qui font en sorte qu'ils ne touchent pas les œuvres, qu'ils ne les volent pas, qui vont en fait leur faire une petite médiation. Donc ils vont leur offrir leur propre vision des tableaux, qu'est-ce qu'ils en ont vu durant leurs longues heures de surveillance. Et donc ça va être le point de départ de petites improvisations très courtes, d'une minute à 3 minutes, voire plus.
Alors ça c'est à 20h, 21h30 et 23h si je ne me trompe pas. C'est ça.
C'est exact.
Et là, vous avez aussi fait des petites impros ce matin à la Cato et à Belle Bay.
Exactement. Nous en avons fait une à 10h à la Cato et une à midi à Belle Bay. Donc aussi pas mal de monde pour nous voir. Nous avons distribué aussi des badges pour rameuter des gens au sein du musée. Des petites interventions très courtes, une course au ralenti avec des improvisateurs déguisés en super-héros, des illustrations de tableaux du musée faits d'un coup comme ça, improvisés. Et ainsi qu'une sorte de petit téléachat pour soigner des maladies de super-héros.
Ça a fonctionné ? Vous pensez que vous allez ramener du monde ce soir ?
Eh bien, je pense. J'entends des gens dehors, donc j'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui va arriver.
Je crois qu'il y a la queue.
La queue, exactement. La queue dehors le musée, jusqu'à
dehors. Bien
sûr, je
crois qu'ils crient les improvisiaques.
C'est vrai que le hall se remplit petit à petit, là.
Oui.
Alors, en face de vous, Vinchap, bonsoir.
Bonsoir.
Donc je disais dans la présentation, vous êtes musicien, compositeur, interprète, plutôt dans le domaine du hip-hop et de la chanson française.
Oui.
Et donc en amont de cette nuit des étudiants, vous avez animé des ateliers Faites du bruit.
Oui.
C'est vous qui avez choisi le thème des ateliers ?
Alors ça a été choisi avec Julie, ici présente. On avait envie de trouver des activités sonores autour des tableaux. Et à un moment donné, dans la visite que j'ai eue un peu privée et privilégiée, on est tombé sur quelque chose que j'ignorais qui s'appelait les Caprices, où on voyait des œuvres qui mélangeaient différents lieux géographiques, qui regroupaient différents lieux géographiques dans un seul tableau, géographique et historique. Et donc j'ai dit, mais ça c'est dingue, on dirait quand je fais de la musique, c'est pareil. Et donc bon, assez rapidement, on a commencé à faire des parallèles. On avait, je sais plus, 6 ou 7 projets, les idées ont fusé. Et puis ça c'était l'idée majeure qui est restée, c'était de faire cet atelier sampling et qui a été réalisé un atelier de grâce à une jeune fille qui s'appelle Aurore, que je vois qui s'approche et qui a elle imaginé, mais elle le racontera mieux que moi, a trouvé des super-héros dans des tableaux où peut-être on ignorait qu'ils figuraient.
Alors justement, juste pour les auditeurs, le concept de sample, est-ce que vous pouvez le résumer assez rapidement?
Puisqu'on est dans le sous-marin jaune, écoute, je vais rappeler que les Beatles eux-mêmes avaient déjà à l'époque étaient partis avec leurs enregistreurs récolter des sons un peu partout et qui s'en étaient servis pour créer des œuvres. Et en fait c'est un petit peu peu ça, c'est le fait d'utiliser des œuvres préexistantes et de les ramener dans une musique nouvelle.
C'est un patchwork.
C'est un patchwork, voilà. On l'utilise beaucoup dans le hip-hop et la musique électronique parce que c'est des musiques qui ne nécessitent pas de connaissances forcément de solfège, etc., où on va boucler un passage, que ce soit de Mozart ou de Coltrane, et d'après d'en faire une musique. Donc voilà, moi je suis vraiment venu en tant que technicien pour que ce soit eux qui fassent leurs œuvres en leur expliquant tout ça et en leur montrant les outils. Et c'était chouette.
C'était chouette, il y avait combien d'étudiants ?
On était 7 et chacun a fait quelque chose de complètement différent. Donc c'était pour moi, il fallait ça a puisé dans mes ressources et dans. Parce qu'ils étaient hyper demandeurs, ils avaient envie de vraiment de s'investir dans, chacun dans leurs œuvres. Donc de leur montrer plein de manières de traiter le son, de le triturer, de le renverser, de lui mettre des effets bizarres, de l'écho, etc. Donc c'était super rigolo et à chaque fois ça donnait quelque chose qui n'a rien à voir. Donc ça m'a beaucoup plu.
Donc justement, Aurore est là pour en parler. Bonsoir Aurore.
Bonsoir.
Donc toi, tu as fait partie de ces ateliers sampling avec Vincha. Pourquoi tu y es allée ?
Pourquoi j'y suis allée ? Pourquoi hein ?
Par curiosité, t'avais...
Par curiosité, par envie, parce que j'avais envie de m'investir pendant la nuit des étudiants au musée des Beaux-Arts, mais j'ai pas de don artistique particulier. Je sais pas peindre ou dessiner quoi que ce soit. Et du coup, faire une création sonore, ça m'a paru plus... Comment dire ? Je me sentais plus apte à faire ça. Je me sentais capable. Et ça m'attirait pas mal parce qu'en même temps, c'était un univers qui m'était un peu inconnu.
Oui.
Donc c'était vraiment. J'avais envie de découvrir, j'avais envie de m'investir et ça a fait un bon mélange. Et du coup, ça a donné deux petites créations.
Voilà. Ça a donné deux petites créations et Alice, une de nos reporters, était là pendant les ateliers sampling. On va écouter un reportage. Et elle nous livre un avant-goût de l'histoire d'un canard avec Aurore.
Silence, tout le monde.
C'est bon ?
Ouais.
L'histoire de Gaston est tragique. Le canard que vous voyez là ne représente pas celui qui a vécu il y a quelques années. Avant, Gaston était un valeureux et courageux canard qui volait à la rescousse des plus faibles.
T'as triché sur quel
Courageux,
qu'est-ce qui s'est passé ?
On reprend là.
Courageux, pas bon. Courageux n'était pas bon.
Comment ?
Faut reprendre après quelques années.
Courageux.
Voilà, faut bien articuler.
Ne représente pas celui qui a vécu.
Tu sais pas, tu vas le droit, droite, gauche. Et puis là, peut-être le baisser un peu. Après, tu peux le faire sans le casque, si tu préfères.
Non, parce que c'est pas mal d'avoir le retour, je trouve.
Bah, si, voilà, c'est. Moi, je préfère aussi. Mais... Alors, on reprend le tout depuis le début. Ouais. Hein. C'est reparti.
C'est bon ?
Ouais.
L'histoire de Gaston est tragique. Le canard que vous voyez là ne représente pas celui qui a vécu il y a quelques années. Avant, Gaston était un valeureux et courageux canard qui volait à la rescousse des plus faibles. Caneton, poussin, genois, bref, toute la basse-cour était en sécurité quand Gaston se trouvait dans les parages. Adulé de tous, il avait acquéri au fil des années une vraie réputation de super canard qui lui collait aux plumes. Mais un jour, un drame terrible se passa. Alors que Gaston était en train de se prendre le bec avec un coq voleur d'œufs, un chasseur le prit dans sa ligne de mire et tira sur lui. Le coq eut le temps de prendre ses pattes à son cou et fila aussi vite que possible. Malheureusement, Gaston n'eut pas cette chance. Le pauvre était mort. Il gisait au sol comme un vulgaire canard de bas étage. Le chasseur rentra chez lui, heureux à l'idée de pouvoir manger le soir même un bon magret de canard. En attendant que sa femme le cuisine, il l'accrocha à une planche en bois, tête en bas dans la cuisine, et le voilà en piteux état.
Alors Aurore, c'est quoi cette histoire de canard ?
C'est l'histoire vraiment pas très drôle de Gaston.
Oui.
Il finit en magret de canard. Il faut venir au musée d'Angers pour voir dans quel état il est. Et c'est pas très beau à voir.
Comment ça t'est venu cette idée ? Comment ça se passe le travail de Sam justement ? Comment ça s'est passé ces ateliers ?
Moi en amont, j'avais fait de mon côté un travail d'écriture. Déjà avec Déborah un week-end d'avant, qui est l'autre médiatrice culturelle. Et après, chez moi, je l'avais travaillé. J'avais déjà quelques idées de son, de bruit, de musique que je voulais mettre.
Et sonore.
Voilà, exactement. Et Vinja m'a aidé à en trouver des nouveaux.
Trouver des bruits de casserole, des bruits de friture.
Ça nous a pris plus de temps, d'ailleurs. Ça a été ce qui nous a pris le plus de temps. Les pommes de terre qui...
Les pommes de terre. Et trouver le bruit.
bon son, quoi. Parce que de la pomme de terre, pas la carotte, ni le. Non.
Et c'est ça, vous partez la chasse au son, en fait.
Complètement. Ouais, ouais. J'étais même venu d'ailleurs avec des enregistreurs, donc les étudiants avaient la possibilité également, s'ils voulaient aller enregistrer la gare d'Angers, ils pouvaient. Ils pouvaient. Donc après, ils ont choisi de pas le faire, mais c'était possible aussi, quoi. Après, il y a tous les sons possibles imaginables sur Internet, donc on s'en sert. C'est un vaste terrain de jeu. Ils ont enregistré bien sûr leur voix, ils ont fait des bruitages avec leur voix, ils ont été prendre des œuvres classiques, des œuvres bizarroïdes, ils vous expliqueront mieux que moi, mais c'était drôle, quoi.
Il y avait tout un travail de bruitage aussi, comme on voit parfois, vous avez eu des ateliers bricolage.
Rien de bruiteur à proprement parler, mais ils ont essayé eux-mêmes de reproduire les sons qu'ils trouvaient par eux.
Et alors ça, c'est diffusé ce soir ?
Ouais. En boucle, les salles, devant les œuvres qui leur ont servi de démarreur.
Et alors pour le canard, qu'est-ce qui t'a servi de démarreur ? Il y a une œuvre en particulier ou parce que...
Peut-être laisser du mystère. Hein.
Non, c'est juste que j'aime bien ce tableau où on voit un canard sur une planche en bois, là, mort. Bas, et je l'ai toujours trouvé chouette, en fait.
D'accord.
Et voilà.
On laisse le soin aux visiteurs de retrouver le canard mort dans les collections.
Effectivement. Et alors, Vincia, vous êtes fier de vos petits élèves ?
À fond, quoi. Moi, c'était vraiment ce que j'attendais le plus, c'était de pas me mettre en avant, moi, dans ce que je faisais, d'arriver juste avec les outils, quelques idées, mais plutôt de leur montrer le champ des possibles et qu'ils prennent ça... pour eux, et je trouve qu'ils se sont mis à fond. Donc voilà, après je suis rentré chez moi, j'ai réécouté ça, j'ai mixé, j'ai trouvé ça super. Donc je suis très fier du projet aussi, de toute l'équipe des médiateurs autour qui m'a introduit aux œuvres, et parce que aussi les étudiants, faut le dire, ont eu une visite privée aussi des œuvres pour redécouvrir les tableaux et les aider dans leurs réflexions. Et c'est déjà, ce musée est dingue, vraiment. Enfin, pour moi, je viens de région parisienne,
peux le redire s'il te plaît.
Non, mais j'ai trouvé que le choix des œuvres était fabuleux. Il y en a suffisamment peu pour qu'on puisse s'y intéresser. Et peut-être, ou alors c'est la qualité du parcours que j'ai eu.
Je confirme.
Mais je pense que c'est un peu des deux. Et vraiment, vraiment, le musée était dingue. Le projet était hyper original et nouveau et tout ça. Donc 10 sur 10, quoi. Enfin, c'est super intéressant de bosser comme ça.
Et la morale de l'histoire, c'est qu'on peut s'amuser, on peut créer, on peut délirer sans perdre le sens.
Oui.
Et sans connaissance, si tu me peux parler
sans cette connaissance, c'est beau.
Sans connaissance du son, du solfège, finalement, ouais, juste ça. Parce que.
Et par ni des de idées. L'histoire de l'art, ni de l'histoire de l'art.
On va se faire une petite pause musicale, si vous le voulez bien.
Thank you.
Vous écoutez Radio Campus Angers, on est ce soir dans le hall du Musée des Beaux-Arts pour la nuit des étudiants de 19h à minuit. Le musée est ouvert et gratuit pour les étudiants. Il y a plein d'animations, il y a du monde dans le hall et en face de moi il y a trois bonhommes masqués qui me font un peu peur. C'est Gus 2, un groupe rennais. Bonsoir Benjamin.
Oui, c'est moi, Benjamin.
Alors, on ne pouvait pas tomber mieux, vous êtes des super-héros masqués.
C'est ça.
Pour le thème de la soirée, c'est pas si mal.
Tout à fait.
Donc, vous venez de Rennes.
Oui.
Et on fera une petite discussion après. En attendant, vous allez nous jouer trois morceaux.
Très bien.
Alors, donc je vais voir un banjo, un saxo et...
Des percussions, du violon et plein de surprises.
Plein de surprises. Ouais. Et bien, c'est parti si vous êtes prêts. Et si ça ne l'arsène pas trop.
Yep.
Continue.
Thank you. Anna.
Sur Radio Campus Angers, dans le hall du musée des Beaux-Arts. Gus 2, sachez que j'ai dit Gus tout pendant 10 jours.
Benjamin. C'est pas grave.
Donc Benjamin, c'est... Fabien et Jean-Baptiste.
Tout à fait.
Donc on a vu passer plein d'instruments là. Vous êtes chacun multi-instrumentiste, c'est ça?
Oui,
même
après...
des chaussures à grelots, Benjamin.
Voilà, des chaussures à grelots, oui. Après, on a tous un instrument de prédilection en fait. On a tous appris des instruments avant l'autre. Moi je suis violoniste, Fab est saxophoniste et JB est banjoiste, guitariste.
Donc pourquoi vous êtes masqué? Vous vous sentez super-héros dans l'âme?
Parce que on fait de la musique dans la rue, principalement. Le projet est né de l'envie de jouer de la musique dans la rue et d'amener la musique instrumentale aux oreilles de la veuve et de l'orphelin qui passent dans la rue.
Comme les super-héros.
Voilà.
D'accord.
Voilà.
Donc l'idée, c'était vraiment de jouer dans la rue à la base. C'est pas pour des questions pratiques, en fait, du réalisme.
C'est comme Batman, il joue dans la rue, quoi. Il va sauver les gens dans la rue. Mais le côté super-héros, quoi, c'est ça. Ouais.
Donc vous existez depuis 5 ans?
Oui, tout à fait.
Vous avez lancé un appel à soutien pour enregistrer un premier album?
Tout à fait. Alors, l'appel à soutien a été mené jusqu'à bon port, hein, jusqu'à bon terme. On est actuellement en préparation de la sortie de l'album qui aura lieu donc au mois d'avril à Rennes. Et là, pour le coup, ce sera un Gus 2 un peu enrichi. On a profité des possibilités qu'offre le studio pour ramener d'autres instruments.
Encore.
Voilà. C'est arrangé pour le studio, en fait. C'est un côté un peu plus orchestral.
Et l'album, il est prévu pour la sortie?
Sortie en avril 2014. Voilà.
D'accord. Il y a deux formations de Gus 2, en fait. Il y a une formation acoustique et une formation électro,
oui.
C'est ça?
Électrique.
C'est Gus 2, hein. C'est pas Gus 2.
J'ai redit Gus 2, là.
C'est
un vrai problème.
Il y en a qui disent Gus 2.
En Gus 2. En Espagne, c'est Gus 2.
Donc il y a deux formations,
Ouais, tout à fait. Il y a celle dont on parlait, là, qui est née dans la rue, et puis il y a une formule électrifiée. Donc en gros, c'est le même répertoire, les mêmes morceaux réarrangés pour des instruments qui font un peu plus de bruit, guitare, batterie, le saxophone a pas mal d'effets à ses pieds aussi.
Et vous faites des concerts à l'intérieur aussi?
Oui.
C'est pour ça qu'il y a des formations
La formule électrique, en fait, elle vient de l'envie de quand on voulait jouer sur des grosses scènes devant des grosses jauges, l'acoustique permet pas, en fait, de jouer devant trop de monde. Et plutôt que d'amplifier la formule acoustique, on s'est dit autant utiliser des instruments électriques, en fait.
D'accord. Et en parallèle du studio, est-ce qu'il y a d'autres dates de concerts, de live bientôt?
Oui, je t'en prie.
Alors, on joue au mois de décembre avec des copains à nous qui s'appellent Syntax Error, un groupe de Rouen. On fait deux cafés-concerts avec eux, un à Guernot le 13 décembre et l'autre à Rennes à l'avant-scène le 14 décembre. Et voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Il faut aller voir sur
le site internet.
Ouais. Voilà.
Une dernière question, vos super-héros préférés, c'est qui? À part Batman?
Ah bah, c'est Batman.
C'est Batman.
Je sais pas trop.
Un doute.
Je sais pas, Luke Skywalker.
Ouais, mais c'est pas vraiment un super-héros. Dark Vador, alors ouais. Dark Vador.
Bon, merci beaucoup, Gus 2, d'avoir été en live dans le sous-marin. Donc maintenant, on va passer aux porteurs de projets qui sont installés à la table pendant le live de Gus 2. Les porteurs de projets, ce sont des étudiants qui ont répondu donc à l'appel du musée en septembre pour animer en fait, la soirée avec différents projets sous toutes leurs formes. Donc Manon et Suzanne, à ma gauche. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous avoir rejoints. Donc vous avez animé un projet de médiation.
Oui, c'est ça.
Un projet de médiation qui est Démasquez-moi.
Voilà.
Alors, en quoi ça consiste?
Alors, c'est un projet de médiation qui s'organise comme une démambulation pour aller jusqu'à un tableau qui s'appelle Allégorie à la simulation de Lorraine de Lépi. On part d'une salle où il y a plusieurs tableaux avec des portraits. On emmène en fait les spectateurs regarder différents tableaux dans le musée et leur donner des indices, des éléments de compréhension qui les aident à mieux comprendre le tableau. Une fois devant le tableau Lépi, sachant qu'en fait on l'a pas du tout fait comme une forme un peu ennuyeuse comme en cours, mais on l'a fait comme une histoire en fait, en racontant l'histoire du peintre Lorenzo Lippi et en l'amenant jusqu'à l'histoire mystérieuse de son tableau. Voilà.
C'est votre formation qui vous a donné envie de faire ça? Vous faites quoi comme études, Manon, Suzanne? Vous avez peut-être terminé vos études?
Non, on est en deuxième année d'histoire de l'art. Et donc, on étudie toute la journée l'art, on voit 36 000 tableaux. Et c'est ça qui nous a donné envie, pour une fois, que ce soit nous qui en parlions aux gens, qu'on puisse transmettre tout ce que peut révéler un tableau, en fait, et qu'on ne voit pas au premier regard.
Et pourquoi ce tableau en particulier?
Dans le cadre de nos études, on a été plusieurs fois amenés à venir au musée des Beaux-Arts d'Angers, et c'est vraiment, enfin moi personnellement, c'est celui qui me plaît le plus.
Il ressemble, enfin il décrit quoi? Si vous pouvez le décrire, ça...
Alors, c'est une niveau quoi. Alors, c'est une jeune fille qui est mise en valeur avec une lumière très très forte sur un fond noir. Elle est très très jolie, c'est une très belle femme brune avec des yeux noirs, et elle porte en fait dans ses mains deux objets. On a un masque et une grenade, et c'est un tableau qui est très très mystérieux parce que c'est la première fois dans l'histoire de la peinture que ces deux objets sont associés, ce qui a posé pas mal pour, enfin, les historiens d'art encore à l'heure actuelle en fait ne savent pas, ont du mal à définir vraiment la symbolique de l'association de ces deux objets, et c'est ce qui a et ce qui nous a permis nous de notre côté du coup de complètement fabuler là-dessus, de monter toute une histoire, et voilà, à partir du moment où rien n'est sûr, on peut tout imaginer.
D'accord, donc c'est ça, c'est des hypothèses votre...
Oui voilà, c'est une histoire où on s'est basé du tableau pour et de ce qu'on savait sur l'histoire du peintre pour après créer une forme d'imaginaire.
D'accord, donc ça s'appelle Des masques et moi, ça dure 25 minutes. C'est ça à peu près, je lis sur le programme. Donc 20h30, 22h et 23h15, si je me trompe.
Voilà, c'est ça.
Merci beaucoup d'avoir été
de rien.
Merci plateau avec nous. Et on termine avec Adrien. Bonsoir. Alors, tu es étudiant à la Cato en art plastique.
Oui, c'est ça. Troisième année.
Et tu exposes donc dans l'escalier oui, du musée des Beaux-Arts. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton projet?
Alors pour mon projet, par rapport au thème du super-héros, j'ai voulu travailler sur les œuvres de la réserve, comme des héros cachés en fait qu'on ne voit pas, et qui finalement ici les mettre en lumière et donc les révéler à la lumière du jour, dans une installation en fait dans la cage d'escalier qui n'est pas un espace d'exposition à la base en fait. Et donc justement de jouer avec cet aspect révélation, dissimulation, dans un espace qui n'est pas voué en fait à une exposition, et donc il y a le lieu approprié pour exposer ces œuvres.
Et donc pour aller les chercher, en fait il y a une dizaine d'œuvres, c'est ça?
Il y a 12 œuvres, oui.
Tu es allé dans les réserves?
Alors non, je suis passé par la plateforme Micromusée en fait, c'est là où sont répertoriées toutes les œuvres et les visuels, et j'ai pu avoir accès aux visuels des œuvres en fait qui me plaisaient le plus, enfin, qui répondaient à mon projet.
Et donc en fait on voit qu'elles sont égratignées, enfin craquelées.
Oui, c'est ça.
Et tu t'es servi de ça pour ton installation?
Oui, alors j'ai voulu utiliser le fait qu'elles soient abîmées en fait comme leur particularité en fait, c'est la raison pour laquelle elles ne sont pas exposées, donc j'ai utilisé ces parties lacunaires, abîmées, je les ai découpées et replacées sur un autre endroit du tableau, comme pour dissimuler une autre partie en fait, et faire une sorte d'improvisation formelle sur le tableau lui-même. D'où le nom, le titre de l'installation.
Ça fait quoi d'être exposé au musée des Beaux-Arts?
Ça fait plaisir, parce que c'est une belle occasion de... C'est aussi l'occasion d'avoir un autre public que les étudiants en fait, quand on présente un projet à l'université en fait, c'est que devant des étudiants. Ici là on a plus de monde, et c'est aussi l'occasion d'investir des lieux quand même beaucoup plus intéressants.
Est-ce que ça va rester un petit peu après ce soir l'installation?
Non, je viens la démonter demain matin.
D'accord. Voilà. Le fait qu'elles soient abîmées, ces œuvres, pour toi ça participe à leur beauté, à l'œuvre justement?
Oui, c'est vrai que moi j'aime particulièrement les œuvres abîmées, parce qu'il y a cet effet aléatoire en fait qui se crée, qui rend l'œuvre vraiment très... qui passe du statut d'œuvre à quasiment quelque chose de relique en fait, parce qu'il y en a certaines, elles sont complètement déchirées, il y a des trous, elles ont une nouvelle beauté en fait qui émane justement de leur évolution dans le temps en fait, de leur altération.
Et c'est un péché alors la restauration?
Non, parce qu'en fait maintenant la restauration, le principe de la restauration quand même reste de... On voit la restauration, on ne répare plus complètement une œuvre, on essaie de faire un minimum, c'est le minimum en fait qu'on fait, mais on peut se poser la question.
Merci beaucoup Adrien d'avoir été avec nous. Bonne soirée.
Merci.
Alors on conclut Sous-marin dans le hall du musée des Beaux-Arts d'Angers en direct en public. Vous pouvez nous rejoindre jusqu'à minuit. Donc voilà, c'est entrée ouverte à tous. Il y aura un DJ, donc je disais tout à l'heure, il y a un bar, il y a des animations partout, il y a des médiations, donc il y a des concerts, il y a du théâtre d'improvisation. On ne s'ennuiera pas jusqu'à minuit ici.
Il est l'heure pour nous, en tout cas, de lâcher l'immersion au Musée des Beaux-Arts. Aux manettes, ce soir, c'était David, et vous pouvez nous réécouter en podcast sur notre site internet www.radiocampusangers.com. Tout de suite sur Radio Campus, vous retrouvez Turbulence, l'émission des groupes locaux animée par Marion et Robin. Et ici, bien sûr, aux Beaux-Arts, vous retrouverez une soirée d'animation, je le dis, je le répète. Merci à vous d'avoir embarqué dans le sous-marin. On se retrouve demain à 19h. Allez, bisous.
Yellow submarine, we all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.